Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Immo.
Bonsoir, il est exactement 19h02, vous êtes en direct sur Radio Immo pour notre grand jury de la presse immobilière. Il fait très chaud. Voilà, on va essayer de ne pas fondre, on a un peu de clim avec nous. On est très heureux d'être avec vous, vous êtes peut-être sur une terrasse, sur votre application, vous écoutez Radio Immo, vous êtes les bienvenus pour ce dernier numéro de la saison. Et oui, on est sur le dernier numéro de juin. Je crois quand même qu'on va faire une numéro spéciale peut-être en juillet, mais en tout cas on vous donnera les infos, les amis. Justement, on ne pouvait pas mieux finir l'année du grand jury de l'immobilier avec un grand monsieur qui est avec nous. Il va être notre invité, voilà, qui va passer sous le feu des questions de nos journalistes. Il est présent avec nous. Bonsoir Stéphane Dallier.
Bonsoir Sylvain.
Président du groupe Bacalan.
Eh oui.
Vous allez nous en parler tout à l'heure. Nous avons commis ce grand jury de la presse immobilière avec ce qu'il y a de mieux dans la presse immobilière française, mais même aussi dans la presse immobilière généraliste. Quelqu'un que je connais bien, ça fait plusieurs années que nous avons réalisé de très belles émissions ensemble. On en a même créé. Voilà, on a fait des cartons, notamment sur capital.fr. Il est maintenant journaliste à l'Informé. C'est notre ami Guillaume Chazoulière.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Tu peux parler plus fort si tu veux.
Et il est très informé.
Bien entendu.
Voilà, c'est très bien. Merci Guillaume d'être avec nous.
Je faisais attention à parler bien dans le micro.
Voilà, journaliste d'investigation et d'information également sur l'immobilier. Merci Guillaume d'être avec nous. Président de la Gibat, ancienne journaliste au Monde, ayant publié plusieurs articles et livres d'ailleurs, halte à la spéculation sur le logement, toujours dans les bacs, toujours accessible. Présidente de l'AGIBAT, l'Association des journalistes du bâtiment, c'est bien ça, hein ?
De l'habitat et de la ville.
Voilà, de l'habitat et de la ville, Isabelle Rennefèbre.
Bonsoir.
Merci Isabelle.
Merci voilà, de votre invitation.
Toujours fidèle au grand jury depuis le début. Voilà, ça fait 5 ans exactement.
Déjà ?
Merci d'être avec nous. Une petite pensée, elles ne peuvent pas être avec nous, mais elles pensent à nous très fort, notre Marie Nationale, journaliste sur BFM Business, qui a maintenant sa tranche tous les matins de 10h à 10h30, et notre super Virginie Grelot du journal Challenge. Également avec nous, depuis le début, notre ami Bruno Monnier-Vinard, son Altesse Bruno Monnier-Vinard est avec nous. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
J'ai voulu le faire, voilà, c'est un petit joke. Merci. Voilà, journaliste au Point, avec des dossiers toujours extrêmement bien étayés, que j'aime beaucoup, beaucoup. Le dernier, d'ailleurs, a été publié. J'ai eu l'honneur d'y participer, puisque nous avons fait une interview de Thierry Laroupon, président de BNP Paribas Real Estate. Mais je n'étais pas seul sur ce journal, parce que j'ai vu un certain journaliste qui avait signé également un article. Il est aussi chroniqueur au Point, il est chroniqueur au Nouvel Observateur, il est le tout nouveau chroniqueur sur Radio Immo chaque semaine. Il est à la tête d'une chronique qui s'appelle À la Une des quatre colonnes, puisqu'il a ses entrées partout, et notamment au Parlement, entre députés et sénateurs. Il est avec nous ce soir pour son premier numéro du grand jury de la presse, Sébastien Chabas.
Bonsoir Sylvain.
Comment
merci.
Ça va Sébastien?
Très bien.
Nous sommes tous heureux de vous avoir sur le plateau.
Honoré, merci pour cette première.
Voilà, comment ça va à part ça?
Tout va bien.
La famille, tranquille, ça va? Voilà. Bon, voilà. Voilà, je vous taquine. Hein. Après tout, on ne fait que de la radio. Merci en tout cas d'être avec nous. Les données sont faites chaque mois, données très précises, par le monsieur Data de Bien Ici, notre partenaire historique, le meilleur portail d'annonces immobilières qui existe en France, on va être tranquille, qui a battu des records depuis ces dernières années, puisque de rien, il est passé à la troisième place du podium, quasiment la deuxième, et il sera bientôt numéro un, on peut le souhaiter. C'est Régis Sébille.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va Régis?
Très bien.
Voilà. Toujours, l'avantage avec vous, météo de l'immobilier, les données chiffrées, extrêmement intéressantes. On va parler bien sûr du marché de l'immobilier, mon cher Stéphane. Vous allez nous présenter également le groupe Bacalan que vous avez transformé en profondeur. Vous continuez d'ailleurs ce formidable chantier. Vous êtes un spécialiste de la promotion immobilière, spécialiste de la régénération urbaine, mais pas que. Vous êtes également ingénieur en bâtiment, vous avez fait l'ESTP et vous êtes diplômé d'HEC. Donc on est quand même sur du très haut niveau, mesdames et messieurs. On va en profiter pour vous poser toutes les questions. Voilà, on a au sommaire de l'émission notre météo qui sera faite avec notre ami Régis Sébille. Ensuite, on fera, vous savez, la revue du grand jury. Mon cher Stéphane, on demande aux journalistes tous les mois, est-ce qu'ils ont un coup de cœur ou un coup de gueule? Grâce à notre ami Bruno Monnier-Vinard, on fait le tour des magnifiques outils architecturaux, des œuvres magnifiques, tous les mois, avec de très belles infographies. Voilà, vous avez prévu un coup de gueule, un coup de cœur, ce sera à vous, la revue du grand jury. Landry. Ensuite, on passera également ensuite au grand débat avec notre invité. Voilà, un menu plutôt sympathique. C'est parti pour la météo de l'IMO.
La météo de l'IMO, par Bien Ici.
Régis, mon cher Régis, je suis ravi de vous retrouver. Cette chronique, elle est toujours dédiée au marché de l'immobilier.
Oui.
On prescrit, on fait de la tendance, on essaye d'analyser le marché. C'est toujours extrêmement intéressant. Je vous propose, en cette fin d'année, de radio, plus exactement, à l'aube des vacances d'été, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la dynamique du marché, là, si on prenait une photo tout de suite?
Alors, la dynamique de marché, en fait, si on va regarder à fin mai, hein, sur les 5 mois et demi écoulés, on va avoir une hausse de la demande générale sur le marché transactionnel d'à peu près 12,5% au niveau national, avec une demande qui se veut plus portée sur les appartements, plus 22%, que sur les maisons, où on est plutôt à 4,5% par rapport à 2024. Au niveau de l'offre, on est assez stable par rapport à l'année dernière, ce qui veut dire que pour un niveau d'offre égal, on a un peu plus de demande et un peu plus de réactivité sur le marché par rapport à 2024. Sur le seul mois de mai, on va avoir plus 11% de demandes. On a un mois de mai qui est toujours un petit peu plus calme, avec des ponts et moins d'activité sur le marché immobilier. Mais ça se ressent quand même sur la demande, avec ce plus 11% qui suit cette tendance depuis le début d'année. Et on a un petit peu d'annonces aussi qui reviennent, plus 6% d'annonces par rapport à mai 2024. Donc globalement, on va avoir des bons indicateurs sur la transaction et des moins bons indicateurs sur la location. Si on regarde par rapport à l'année dernière,
ça s'arrange pas, hein.
On est encore en baisse d'annonces, moins 11%, alors que la demande continue à progresser, plus 10%, ce qui nous donne une tension, en fait, dans le rapport des deux, de plus 23%. On va avoir encore plus de monde à chercher des biens à louer et moins d'offres disponibles.
Alors, sur un an de mai 24 à mai 25, moins 2% d'annonces et plus 8% du volume en demande, alors que les années précédentes, 2023 et 2022, étaient déjà pas très bonnes. On est sur un vrai sujet de société.
Alors,
on
y a un vrai sujet
rien à louer, quoi.
Oui, exactement. Il n'y a rien à louer. On a un gros problème d'offre et un autre souci de demande qui augmente. Donc forcément, on est sur des marchés qui s'étirent, alors que le marché de la transaction, on va avoir plus d'offres, de plus en plus d'offres, en fait, parce que les temps s'allongent et les réflexions,
bien sûr,
le temps de la réflexion s'allonge plus tôt. C'est surtout un équilibre entre le prix et le budget qui fait que ça s'allonge à ce niveau-là. Et du coup, ça resserre la pression sur la location, notamment au niveau des primo-accédants qui restent locataires avant d'acheter.
Bien sûr, et puis on discutera d'ailleurs tout à l'heure justement de cette grave crise structurelle du marché locatif privé, mais même locatif social, hein, où on a des situations humainement désespérante, hein, il faut quand même le dire. L'an dernier, c'était 17% des étudiants qui n'avaient pas trouvé de logement et donc avaient renoncé à leurs études. Ils seront 22% en septembre, on l'estime, 22%, sans compter les étudiants qui vivent dans des logements de fortune, dans des logements indignes, dans des logements insalubres, facteurs de dégradation de la santé publique, de santé physique et mentale, bien évidemment. Côté prix, la tendance nationale est plutôt stable, hein.
Alors, la tendance nationale, elle est plutôt stable, hein. Si on regarde sur les 12 derniers mois, on est à peu près à moins 1% au niveau national sur les prix moyens. On va avoir une tendance qui est différente selon les villes et les territoires. À Paris, on a une petite augmentation, plus 3% quand même. C'est de l'ordre de 200 à 300 euros d'augmentation par rapport à l'année dernière sur le prix au mètre carré moyen à Paris. Et ça ne se ressent pas en Ile-de-France. Si on regarde la région Île-de-France hors Paris, on est plutôt sur une baisse de l'ordre de 1%, moins 0,9 sur les appartements, moins 1,3 sur les maisons. Donc là, on a un prix qui se réduit et Paris qui augmente à l'inverse. Au niveau des zones urbaines hors Île-de-France, on est plutôt stable sur les 12 mois. Ça peut paraître le même ressenti sur les zones rurales et en périurbain, c'est-à-dire vraiment en proximité des grandes villes de province, on va avoir une baisse sur les appartements et une légère augmentation de plus 0,4% sur les maisons. Donc on a globalement des prix qui se maintiennent, sauf à Paris où ça commence à remonter.
Zone rurale, c'est toujours aussi stable, hein.
Zone rurale, c'est stable, et c'est stable aussi parce qu'on a un peu plus d'offres, et du coup, forcément, ça régule les prix rapport à l'abondance de l'offre.
Sur les biens diffusés à la vente, justement.
Ouais, le temps de diffusion, en fait, c'est un peu ça qui va réguler le marché, c'est-à-dire au bout de combien de temps se vend un bien. On a une baisse qui s'opère depuis 2024, qui continue à baisser lentement sur ce délai moyen de vente, et on revient sur une durée moyenne qui se rapproche de ce qu'on connaissait au final, avant crise sanitaire. Donc on va avoir plus d'offres, plus de demandes, mais un marché qui se régule aussi au niveau de la durée de diffusion.
C'est plutôt un bon signe.
Donc c'est plutôt un bon
si
signe.
Si on analyse le gros chiffre, on se dit qu'il y a une reprise qui n'est pas... c'est pas l'embellie, hein.
Mais c'est
plutôt bon.
C'est un signe où le marché commence à se réguler. On a eu des grosses périodes d'activité depuis 2020, c'est-à-dire qu'on a eu une explosion de la demande, surtout sur les maisons individuelles, où ça... beaucoup joué sur le marché, notamment des prix qui ont fortement augmenté. Arrive en 2022, guerre en Ukraine, inflation, augmentation des prix et augmentation du coût du crédit qui a réduit un petit peu et beaucoup freiné les acquéreurs, notamment les primo-accédants. On revient sur une situation où ça avait fortement augmenté. Ça redevient possible dans l'équilibre entre le budget et le prix de vente et on revient sur des ratios un peu plus normaux dans la faisabilité, en tout cas, de l'acquisition.
On va faire un focus sur la location, justement. La saison, on l'a vu, elle est très tendue. Les choses ne s'améliorent pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme chiffres et comme données?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on était sur une baisse d'offres au mois de mai et en tout cas sur les 5 premiers mois de l'année. Et globalement, ce que l'on peut prédire, c'est qu'on devrait avoir à peu près le même niveau de stock sur juin-juillet que ce qu'on avait l'année dernière. Mais ça reste quand même bas. On est sur une offre locative qui a été divisée par 2,5 voire 3 depuis 2021 sur le marché national, surtout dans les grandes métropoles et les villes étudiantes. Et là où le pic d'activité commence vraiment à mi-juin, les résultats de Parcoursup, c'était il y a quelques jours, les recherches reprennent et on va avoir quand même une grosse tension encore cette année. Ce qu'on peut dire sur la location, c'est qu'on va avoir un blocage qui est surtout au niveau de l'offre locative sur trois points clés. Déjà, le premier, c'est le DPE qui a beaucoup marqué, hein, le DPE depuis 2022. Et un chiffre clé, ou en tout cas une tendance clé qui résume ce constat, c'est que l'offre de studios, donc les studios, c'est des biens destinés par nature à la location, on trouve aujourd'hui... plus de studios à vendre qu'à louer dans l'offre présente dans les villes. Et là, c'est vraiment un ressenti qui est lié à ce DPE. Et les DPE qui sont plus souvent moins bien notés dans les petites surfaces. Et ça se ressent beaucoup au niveau locatif sur les studios.
On en parlera d'ailleurs sur les sujets du moteur de calcul, hein, puisqu'effectivement, il y a le sujet perdu. Hein.
Il y a une révision, la révision qui a été faite l'année dernière, je crois, sur les petites surfaces, a pu aider, mais au final, quand on regarde sur l'offre des studios qui ont été mis sur la vente, c'était avant cette révision,
bien sûr.
Et ça n'a pas aidé forcément.
Chute de la primo-accession ?
Chute de la primo-accession, ça c'est un gros point qui était lié au crédit, c'est-à-dire que le coût du crédit était tellement important qu'on est monté au-dessus de 4% de taux d'emprunt que forcément le pouvoir d'achat disponible, le budget d'achat disponible était réduit par rapport à des prix de vente qui eux avaient augmenté jusqu'en 2021-2022 et cet équilibre entre le prix demandé et le budget possible ne se trouvait plus. Du coup, surtout pour les primo-accédants, c'était dur et ça jouait sur la location parce que forcément, faute de pouvoir acheter, on reste locataire et on n'alimente pas cette rotation sur le marché locatif.
Justement, investissement locatif et notamment sur le marché locatif privé, quand
est-il ? Et l'investissement locatif, ça va être le troisième point de blocage. On a, on va dire, moins de motivation qu'on est bailleur ou futur bailleur pour prendre ce risque qui n'est pas forcément le plus avantageux dans la location traditionnelle. On a eu le cas Airbnb, de la location saisonnière qui devenait beaucoup plus rentable. Donc forcément, il y a eu un report sur ce marché-là. Mais il y a aussi toute la partie intéressante de regarder quel est le rendement et comment je peux bien faire vivre mon bien immobilier à la location et encourager, notamment dans le neuf, et je pense qu'on en parlera un peu tout à l'heure aussi, pour aider justement cet investissement locatif à créer de l'offre sur ce marché.
L'investissement locatif, c'est aussi le sujet du jour, puisque je vous rappelle que je crois que c'est prévu fin juin, la remise du rapport d'Aubresse et Cosson. Il devait l'être un peu plus tôt. Je ne sais pas si Guillaume, tu sais.
Le 30.
Voilà, le 30. Donc, toi, Sébastien, tu as déjà interviewé Marc-Philippe Daubresse.
Marc-Philippe
Daubresse, qui est sénateur, et Michael Cosson, le député. D'ailleurs, je crois qu'on était le premier à sortir cette chronique. chronique sur le statut du bailleur privé. Il y a encore des zones d'ombre, hein, sur notamment le dénouement du statut du bailleur privé. On expliquera un peu les choses. L'idée, en fait, vous avez compris, hein, le statut du bailleur privé, c'est destiné à redonner du pouvoir d'achat aux locataires, enfin aux propriétaires, aux petits propriétaires bailleurs. D'ailleurs, c'est aussi votre cible, hein, mon cher Stéphane, les investisseurs dont vous avez besoin, bien évidemment, parce que vous allez voir, les produits que font le groupe Bacalan s'adressent vraiment à toutes les couches de la société. Et c'est extrêmement intéressant. C'est aussi la clé sur la régénération urbaine de pouvoir relancer le marché du logement des Français. Vous avez parlé des cas majeurs justement sur les investisseurs, les grandes villes où la tension est forte mais les prix d'achat restent élevés, ça c'est vraiment un sujet important.
Oui, alors sur l'investissement locatif,
parce que c'est quand même c'est l'alpha et l'oméga, quoi. Oui. Valérie Létard, elle essaie de tout faire
justement,
pour
justement bien ici en collaboration avec Guy Hoquet, a publié récemment un classement des villes où investir par rapport à un score d'attractivité qui est calculé d'une part sur le rendement, qui est l'étalon de surveillance sur le bon investissement classique, mais aussi par rapport à cette tension de marché, c'est-à-dire combien on va avoir de demandes par rapport à l'offre disponible. Et ce score d'attractivité, en fait, il va nous donner trois cas principaux. On va voir les grandes villes où la tension est extrême, où il n'y a pas assez d'offres et forcément, on a moins de risques de vacances locatives quand on achète. On va voir des villes où le ticket d'entrée est plus abordable avec un loyer qui permet de revenir, on va dire, plus rapidement sur son investissement. Et un cas plutôt intéressant, à mon sens, qui est les villes moyennes avec un prix accessible d'un côté, surtout pour la primo-accession, qu'on arrive aux 3 pièces, 4 pièces, et des biens de plus petite surface T1, T2, destinés à la location, où là, on va avoir une demande et des prix qui restent quand même abordables et où il y a beaucoup à faire sur ces villes moyennes.
Formidable comme toujours, mon cher Régis. Voilà, une photographie extrêmement précise. Vous nous donnez l'occasion d'ailleurs, à ce moment-là, d'amorcer bien évidemment le débat. Merci à vous, la météo de l'IMO qu'on retrouve tous les mois dans le grand jury de la presse immobilière. On va passer maintenant à la revue du grand jury. C'est parti.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Chaque semaine, il est 19h18, vous êtes sur IMO, bien évidemment, pour votre numéro de juin du grand jury de la presse immobilière, avec notre super grand témoin sur le plateau, notre ami Stéphane Dallier, le président du groupe Bacalan. Merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation. La revue du grand jury, les amis, et mon cher Stéphane, c'est un concept, voilà, on dit, c'est une tribune, une agora digitale, certainement, bien évidemment, où les journalistes peuvent pousser un coup de gueule ou un coup de cœur, selon leur humeur, ou pourquoi pas les deux, voilà, tout simplement. Alors, voilà, élégance oblige. On va commencer par notre amie Isabelle Ray-Lefebvre. Qu'est-ce qu'on a ? Un coup de cœur et un coup de gueule ou les deux ?
Les deux, mon général.
Les deux, mon général. Par quoi on commence ?
Coup de chapeau.
Voilà.
En fait, un certain nombre d'élus, dont la ville de Paris, plus la Fondation Abbé Pierre, qui s'appelle maintenant Fondation pour le logement des personnes défavorisées, ont publié des études sur l'impact de l'encadrement des loyers. C'est un système qui plafonne le loyer des locations privées, par quartier, par immeuble, etc. Ça a été créé par la loi Allure de 2014, annulé par le tribunal administratif, rétabli par la loi Elan, mais à titre expérimental. Et l'expérience devrait s'achever en novembre 2026. Donc les élus de la ville de Paris, de Lyon, etc., prennent un peu leur bâton de pèlerin pour convaincre le gouvernement, les parlementaires, de reconduire le dispositif parce que, selon eux, ça marche. Je dirais, moi, ça marchote. Ils ont publié une étude qui essaye donc de mesurer l'impact de l'encadrement des loyers avec des comparés aux villes. Qui, dans 5 villes où s'applique cet encadrement des loyers, est comparé à 5 villes où ça ne s'applique pas. Et il mesure, par exemple, que l'impact de ce dispositif à Paris, par exemple, a permis de minorer, sur les 4 années où ça s'est appliqué, 2021-2024, de minorer de 5%, 5,2% le loyer que payent les locataires. Et avec une accentuation dans le temps, la première année c'était 2,5%, puis 5,9%, puis 8,2%. Et même si tous les bailleurs respectaient l'encadrement des loyers, ce qui n'est pas le cas, 28% sont au-dessus des plafonds, eh bien on obtiendrait une minoration de 9%. Alors, c'est théorique. Hein. Mais enfin, ça représente quand même une économie de 266 euros par mois pour les locataires. Donc,
c'est loin d'être anodin.
C'est loin d'être anodin.
Quand on voit le pouvoir d'achat
donc, en fait, ça a un effet de minoration de la hausse, disons.
Voilà.
Et donc, ils disent, ça marche, il faut le reconduire. L'autre élément qui était, et je rejoins à ce que vous dites, qui était très attendu aussi, c'est est-ce que ça retire des logements à louer des marchés ou ces villes, où ça s'applique dans ces villes. Je note qu'aujourd'hui, quand même, ça s'applique dans 72 communes, dans 9 territoires, 72 communes, mais les dernières arrivées. Pays Basque, Annemasse, etc. On ne peut pas encore faire le bilan parce que c'est les premiers, c'est Paris, Lille, Lyon, Bordeaux. Il note, et là c'est le cabinet d'analyse de données immobilières qui s'appelle Priceable, il note un effondrement des annonces locatives entre 2021 et 2024, moins 61% à Paris, moins 35% à Lille, moins 37% à Lyon, moins 50% à Bordeaux, moins 37% à Montpellier. Mais ce qu'ils disent, c'est que dans les villes où ne joue pas cet encadrement des loyers, on observe le même effondrement, moins 39% à Toulouse, moins 44% à Rennes, moins 39% à Marseille. Alors Marseille va rentrer dans le dispositif, mais pas dans cette période, moins 37% à Strasbourg, moins 53% à Nice. Donc ce qu'ils disent, ce n'est pas l'encadrement des loyers qui provoque cet effondrement. C'est ce que vous disiez, les petites surfaces mal notées par le DPE. C'est aussi le fait que les locataires ne bougent plus. Tout le monde reste scotché à son appartement. Et donc,
parce que les gens ont peur, parce que les gens ont perdu du pouvoir d'achat, parce que l'accession à la propriété donc, ne reflète plus
c'est l'immobilisme qui était, voilà, généralisé.
Absolument.
Et donc, le parc locatif privé, qui est un parc qui tourne normalement à peu près 30% des locataires partaient, et c'est ça d'ailleurs qui fait l'offre, c'est la de masse,
bien sûr,
et
c'est
ben,
la
tourne
rotation,
plus.
Absolument.
Il ne tourne plus, et en plus, il n'est plus alimenté non plus par
bien sûr. On va accélérer, parce que
excusez-moi, je suis trop long.
Oui, le coup de gueule de Isabelle...
Le coup de gueule, c'est sur la simplification. Vous savez, on vient d'adopter une loi sur la simplification. D'ailleurs, cette loi de simplification recomplexifie une autre loi sur la simplification de transformation des locaux. C'est très difficile de simplifier. Et je me rappelle qu'en 2018, Julien Normandie, ministre du Logement, avait dit, on va arracher une page sur cinq du code de la construction et de l'habitation.
Je me rappelle.
Il a nommé un groupe de travail. Thierry Repentin m'a pas caché que c'était très ennuyeux à faire. Ils l'ont fait et puis...
Plus rien.
Plus rien.
Bah, il manquait des pages.
Silence radio total, si j'ose dire. Donc, vous voyez, voilà quelqu'un qui voulait simplifier et il n'est pas arrivé.
Merci Isabelle, toujours aussi.
Si vous avez des nouvelles d'ailleurs de ce rapport, voilà, donnez-les-moi.
On va passer, merci, on va passer à Sébastien. On a un coup de cœur ou un coup de gueule, ou les deux?
Les deux, mais très
alors,
bref. Hein.
Très rapidement.
Alors mon
voilà,
coup de cœur, c'était
voilà,
il y a un mois,
flash,
j'ai eu la chance avec Kimo Week et Nouvelle Ops, j'ai découvert le quartier Les Messagers dans le 12e. Franchement, chapeau à tous les niveaux. Michel Desvignes, l'homme...
Parlez bien dans le micro, mon cher Sébastien.
Michel Desvignes, l'homme qui plante les forêts en ville, vous le connaissez. Là, sur le plan paysager, il nous sort une opération incroyable grâce à SNCF Aménagement, Espace Ferroviaire et SNCF Immobilier. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec une opération vraiment très intéressante, où il y a du logement, où il y a du bureau. Il y aura du bureau déjà qui sera livré dès septembre prochain.
C'est où
entre la gare Bercy
et Austerlitz.
Et Austerlitz.
Et c'est signé Altaria Cogedim.
Et c'est signé, SNCF Immobilier et SNCF Immobilier et, SNCF Espace Aménagement.
Mais il y a
le terrain ferroviaire.
Il y a Altaria qui est sur. Non, pour le commerce.
Vous confondez
oui,
avec.
Je confonds avec le retravail sur la gare d'Austerlitz de la partie commerce.
Effectivement. Oui, sur le lot à 7
oui,
à 8.
Oui, absolument. Voilà. Oui, voilà. Mais à culpa.
C'est une des dernières actes parisiennes.
Oui,
c'était pas la dernière, mais il y a que là où on construit. J'ai connu d'autres qu'on a abandonnés parce que difficulté énorme à concilier les oppositions au sein d'un conseil municipal très pluriel, on va dire.
Et là, pour le coup, la maire écologiste Emmanuel Pierre-Marie a fait tout son possible. Ça a pris beaucoup de temps avec SNCF.
Oui.
Et là, pour le coup, il faudra du temps pour voir cette opération, peut-être dans 8 ans ou plus tard, mais franchement, chapeau.
Canon.
Voilà. Canon, les riverains seront conviés dès samedi 28 juin. Oui. Il y aura une journée nationale, journée des riverains.
D'accord.
Ils pourront déjà voir la maquette et parler avec les promoteurs.
Une question, est-ce qu'il n'y aura pas de barbecue? C'est pourquoi? Non, mais ça fait trop viril.
Ah,
c'est trop. C'est un signe de virilité masculine, le barbecue. Non, je dis ça, mais je dis rien. Ça, c'est le coup de cœur, le coup de gueule.
Le coup de gueule, ça sera très bref. C'est ma prime rénov. Je trouve surtout la mise en scène des fédérations professionnelles depuis quelques jours. Une fois, c'est le coup de carton rouge sur LinkedIn, sur les plateformes.
Là, vous parlez de la Fédération française du bâtiment.
Par exemple. Alors, c'est vrai que Jacques Chanu, en 2014, j'ai vérifié, avait sorti des cartons rouges,
Moi, je trouve ça très bien qu'il l'ait fait.
Mais c'est vrai qu'il y a une mise en scène de plus en plus, développée. Enfin, il y a de plus en plus de mise en scène des présidents de fédération. Et le lendemain, on se dit, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une manif?
C'est prévu début juillet.
Ou pas.
Non, mais peut-être pas, mais voilà. On a aussi.
Caterpillar sur les Champs-Élysées.
Olivier Saleron avait dit peut-être qu'on mettra des grues, des caterpillars. Absolument. Pourquoi pas?
Comme les agriculteurs.
Voilà, 180 000 emplois détruits. De plus de 600 000 artisans
entre
touchés.
Entre 100 000 et 150 000 emplois, selon les.
Non, mais on est d'accord. On va pas y ergoter, Sébastien. C'est un drame absolu pour nos artisans, pour la chaîne de valeur, pour les constructions. Point. On a un gouvernement et une politique qui a mis à genoux toute une filière. Voilà, on va assumer. Donc, s'ils veulent mettre un carton rouge, et en plus, il a mis un gros carton rouge, bravo!
Bravo
Olivier Saleron, voilà. On a le droit de ne pas être d'accord, vous savez pourquoi? Parce qu'on est en démocratie, et la vitalité démocratique, auquel nous sommes très attachés, Stéphane et moi, c'est très important, voilà. Merci Sébastien.
Je vous en prie.
Voilà, pour une première, je vais être beaucoup plus sympa avec vous après. c'est promis, voilà, c'est le baptême du feu. Bruno Monnier-Vinard. Qu'est-ce qu'on a? Un coup de cœur, forcément, une découverte architecturale.
Je vais commencer par venir un peu à la rescousse de Sébastien. Il y a une chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des rouages qui se grippent, c'est tout de suite, on va envahir les Champs-Élysées. Bon, alors, je parle de la forme, je parle pas du fond.
Il y a aussi la place de la République.
Je parle pas de la forme, je parle du fond.
Ou la nation.
Voilà, bon. C'est juste pour venir en aide et dire que c'est pas complètement extravagant comme coup de gueule. Alors, moi, comme coup de gueule, je vais commencer par un coup de gueule qui va un peu à contrario de ce que nous a dit Isabelle. Moi, c'est un coup de gueule sur une nouvelle expérimentation que veut tenter la ville de Paris. La nouvelle idée géniale, c'est non pas l'encadrement des loyers, mais l'encadrement des loyers commerciaux. Pour lutter contre la vacance, il va y avoir une proposition auprès du ministre du Commerce de caper les loyers commerciaux. Alors, on ne remet pas en question la politique de circulation dans Paris, et j'en passe, ça serait trop long. Mais bon, on pense que ça va faire... Ça va faire baisser les prix, d'une part, et puis on va aussi, tant qu'à faire, on va rajouter une taxe sur la vacance des boutiques qui sont vides. Les boutiques qui sont vides, il suffit de se promener sur le boulevard Saint-Michel. D'ailleurs, c'est parti de là, l'idée.
Oui, boulevard Saint-Michel, rue de Rivoli.
Rue de Rivoli.
Des rues dont on n'aurait jamais cru qu'il y aurait autant de commerces vacants.
La rue de Rennes.
C'est vrai dans toutes les grandes villes. Hein.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, alors, est mis en cause la soi-disant la fast fashion. On pourrait peut-être aussi se poser la question de comment je me gare quand je veux aller acheter quelque chose à côté. Enfin, je ne sais pas si j'ai une voiture, mais les voitures, à la limite, ça fait plus partie du paysage. Bon, affaire à suivre.
Bien sûr. Coup de cœur.
On a
quelques infographies, ouais, mon cher Baptiste. Toujours des très belles images.
Ce n'est pas des infographies, ce sont des images.
Des images, des vraies
photos.
Vous avez raison, on me rectifie.
Donc, comme je savais que Stéphane Dallier venait, j'ai choisi un projet de recyclage urbain qui est assez emblématique et qui date d'un an. Mais en un an, il a quand même reçu plus de 350 000 personnes. Je vous emmène à la pointe sud de la Norvège. Dans un endroit qui sur une petite île qui s'appelle c'est pas grave si je vous dis pas le nom, si Oderøya, c'est la prolongation du port de Kristiansand, et Kristiansand c'est la cinquième ville de Norvège quand même.
C'est un ancien silo.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'ils ont pris un ancien silo à grains qui datait des années 30, 1935 exactement.
C'est chouette, hein?
Et ils en ont fait un musée d'art moderne. Alors, c'est un mécénat d'une personne qui est assez richissime, qui dirige le plus grand fonds d'investissement norvégien. Et il y a quand même eu...
C'est le fonds souverain,
Norvège-Banque. Tout à fait. Oui. Ce projet a coûté 60 millions d'euros. Et alors, ce qui est formidable... C'est l'effet waouh, vous le voyez tout de suite, hein, c'est que dans ces cylindres évidés, qui ont été réaménagés, on en fait des puits de lumière pour éclairer. C'est une sorte de quadriplex de galerie. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette scénarisation, elle fait la part belle à la lumière naturelle. Le nom de ce mécène, c'est Nikolai Tangen. Et c'est lui qui possède, alors quand même, quand on a un musée d'art moderne, il vaut mieux qu'il y ait des œuvres qui vont avec. Hein. Il y a 6500 œuvres et c'est sa collection. Et c'est la plus grande collection d'art nordique au monde.
Bravo, voilà. Merci beaucoup. Toujours un morceau d'anthologie, félicitations. Le coup de cœur ou de coup de gueule, Guillaume Chazoulière, journaliste à l'Informé.
Alors, je serai plutôt sur un coup de gueule et je vais revenir sur... Alors, je vais être de ton côté.
Ah.
Sur ma prime rénov, oui. Non mais oui, deux ans de va-et-vient, deux ans d'avancée de reculade, deux ans de on ne sait pas où on va, et effectivement un impact sur l'emploi, mais aussi comment dire, un manque de boussole pour les particuliers à qui, par ailleurs, on impose des réglementations avec l'interdiction à louer des passoires. Alors acheter mais rénover sans aide. Tout ça devient illisible et donc on peut mettre des cartons rouges, oui, et j'en mets un pour voilà. Le coup. Je pense que d'ailleurs on va peut-être en reparler dans le sujet, quoi.
Certainement.
Parce que c'est lié directement à l'investissement locatif aussi.
Merci Guillaume Chazelier. Alors merci pour vos coups de gueule et votre coup de gueule. On va vous demander d'ailleurs ce que vous en pensez, mon cher Stéphane. On va passer justement, on va consacrer la demi-heure qui suit à vous poser toutes les questions. C'est tout de suite après ça.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
Stéphane Dallier, merci d'être avec nous.
Oui, cher Sylvain.
Comme ça, spontanément, sur ce que vous avez entendu, vous avez une réflexion, un commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez
dire? J'en ai plein, mais je ne sais pas combien de temps on a, ça peut durer 4-5 heures.
Vous pouvez rester avec nous autant que vous voulez.
Déjà, sur la chronique, la première chronique, je dirais rien de nouveau sous le soleil. Ça fait quand même à peu près 2-3 ans que tous les professionnels de l'immobilier tirent la sonnette d'alarme en disant « il n'y a pas assez d'offres ». Évidemment, quand il n'y a pas assez d'offres et qu'il n'y a pas d'offres nouvelles, il y a une tension locative extrême. Et c'est rien, parce que le manque de construction des deux dernières années, on n'en a même pas encore les effets. Tout ce qui n'a pas été réservé depuis 2 ans, c'est tout ce qu'on n'a pas mis en production depuis 1 an, c'est tout ce qu'on n'aura pas livré dans 2 ans. Donc ça va être encore pire. Je pense qu'on est vraiment encore très loin de ce qu'on de toutes ces conséquences. Après, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. La politique du logement, elle est très compliquée. Il faudrait avoir le courage de la remettre complètement à plat. Et quand on regarde bien, la vraie politique du logement depuis les 15 dernières années, ça a été beaucoup sur le logement social. Ça a été très peu une politique territoire par territoire pour savoir si on avait besoin ou pas de logement. Voilà. Et si on part pas de cette page-là, je pense qu'on n'y arrivera pas. MaPrimeRénov est le reflet exact de ce qui se passe depuis plusieurs années. L'immobilier, c'est un temps long. Quand on a des lois qui sont sur du court terme, ça ne peut pas matcher. Voilà. Quand on est à la tête de structures, quand on est à la tête de sociétés immobilières, où on doit prévoir, parce qu'il y a des investisseurs, il y a des investissements, il y a des boîtes qui sont cotées en bourse, quand on doit prévoir à 5 ans, comment on fait alors que du jour au lendemain, on peut nous dire « Ah bah, il n'y a plus ça, la loi de Normandie, on en reparlera fin 2027, tout d'un coup, bah non, c'est fin 2026, puis c'est à nouveau fin 2027. » Enfin, c'est pas lisible. Et quand c'est pas lisible et quand c'est pas pérenne, bah voilà, donc il y a des points de blocage partout. L'immobilisme. Alors, on est dans l'immobilier, donc le mot immobilisme est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a une tension locative. Parce que les gens n'osent plus bouger. Mais les gens n'osent plus bouger parce que ils savent pas quoi faire de demain. J'entendais encore ce matin que l'épargne a augmenté. On n'arrête pas de dire qu'il y a un pouvoir d'achat qui s'érode. Et c'est vrai, l'épargne a augmenté. Donc pourquoi ? Parce que les gens n'osent plus rien faire. Et encore moins changer d'habitat. Et puis ils savent plus où non plus. Enfin, faut pas oublier que les cartes ont été quand même pas mal... mélangé depuis le Covid. On était très métropole, aujourd'hui on l'est beaucoup moins. Et nous on le voit bien, sur le groupe Bacalan, la majeure partie de nos opérations, c'est dans les villes. Alors je supporte pas le mot ville moyenne, je trouve que le mot moyen est pas adapté, c'est dans des villes à taille humaine. Voilà. Et c'est donc clair. C'est en région.
C'est très clair.
C'est en région.
C'est très clair. On va justement égrainer ce que vous dites, parce que, alors vous avez une carrière, bien évidemment, très, très importante. Vous êtes d'ailleurs, vous faites partie de cette génération d'entrepreneurs et de cadres dirigeants qui avaient évolué très rapidement dans la sphère immobilière. Très rapidement, vous avez été très jeune à la tête de Pitch Promotion. Vous avez travaillé aux côtés de grands monsieur de l'immobilier, notamment Alain Terravella, par exemple. Vous avez piloté également la direction générale, le groupe Nexity, hein, pour la promotion immobilière également. Et vous êtes à la tête du groupe Bacalan, qui est un groupe qui a été repris par un fonds d'investissement et qui avait été créé par Monsieur Larrère, je ne me rappelle plus.
Exactement, François Larrère, il y a 36 ans, voilà, 36 ans rejoint qui... assez rapidement par Franck Thémim.
Absolument, un groupe bordelais.
Oui. D'où le mot Bacalan, parce que ceux qui connaissent Bordeaux connaissent forcément le quartier Bacalan.
Alors, avant de faire circuler la parole parmi nos journalistes et de vous poser les questions, parlez-nous du groupe Bacalan, parce que vous avez rebaptisé le groupe Bacalan. Vous vous rappelez, est-ce que vous connaissiez le groupe CIR ? Ça vous dit quelque chose, le groupe CIR en promotion ? C'est en fait le groupe CIR qui fait partie finalement du groupe, et vous avez rebaptisé le groupe Bacalan. Et Bacalan, je crois que c'est une rue ou un quartier de Bordeaux.
C'est un quartier. Voilà. C'est un quartier de Bordeaux, et c'est là où tout a démarré. Donc effectivement, vous citiez François Larrère, et moi je cite Franck Thémim qui l'a rejoint assez rapidement. On crée la compagnie immobilière de restauration, CIR, C-I-R, il y a 36 ans, avec un objectif majeur qui était de restaurer des immeubles, toujours avec un vrai caractère patrimonial, et de le vendre, donc de le distribuer à des investisseurs en utilisant les leviers fiscaux qu'on connaît aujourd'hui encore, hein, qui sont la loi Malraux.
C'était quoi, du marchand de biens, non, déjà ?
Non, oui. C'était déjà du Malraux. Historiquement, c'était vraiment la loi Malraux. Et puis après, en fonction de l'emplacement, en fonction de la classification de l'immeuble, ça a été monument historique, puis déficit foncier, etc. etc. Et il y a une quinzaine d'années, tout ce qu'ils avaient fait en ce que j'appelle vente directe, donc vraiment on vendait les logements, ils l'ont créé en vente indirecte, en créant une société de gestion qui s'appelle Urban Premium, qui gère des SCPI, donc SCPI fiscales, exactement pareil. Au lieu d'acheter un logement, vous achetez des parts de SCPI, vous avez le droit aux mêmes leviers fiscaux, que dans le direct, et puis des SCPI de rendement avec cœur commerce. Le lien dans tout ça, c'est les centres-villes, les cœurs de ville, donc ce que je disais, des villes à taille humaine, plutôt en région, où on est persuadé que il y a une vraie vie dans ces villes-là. Les maires aujourd'hui nous appellent beaucoup pour revitaliser leur centre-ville, et il y a une tension locative. Et on ne va pas dans des endroits où il n'y a pas de tension locative, parce que vendre un investissement immobilier, quel qu'il soit, que ce soit un logement ou que ce soit des parts de SCPI, il faut aussi assurer une location. Donc s'il n'y a pas de tension locative, on ne le fait pas. Il y a 6 ans, le groupe a racheté pratiquement en totalité, mais les deux fondatrices ont encore des parts directement, Agarim, spécialiste de la nue propriété. Donc Agarim était sur un modèle très vertueux au niveau démembrement. Donc on faisait de l'ULS, usufruit locatif social. Donc c'est une durée de vie sur l'usufruit de 15 à 18 ans. Donc l'usufruit est pris par un bailleur social. Donc ça lui évite d'avoir à acheter et d'avoir à produire des logements. Donc il va gérer l'allocation en logements sociaux de ses biens et on vend la nue propriété à d'autres personnes ou à des institutionnels. Et une fois le délai d'usufruit passé, eh bien, il retrouve la peine propriété. Récemment, Agarim a changé un peu de modèle et a créé un système d'usufruit locatif libre en montant un fonds d'usufruit libre sur 10 ans et en vendant. C'est toujours des emplacements très prime parce qu'on est très qualitatif dans le groupe. Donc c'est plutôt du Paris intramuros, plutôt du triangle d'or, comme on l'appelle. Et donc on achète des immeubles.
Ça s'adresse à une clientèle plutôt haut de gamme.
C'est une clientèle haut de gamme. Donc on achète des immeubles. On vend l'usufruit à ce fonds d'usufruit libre sur 10 ans, donc qui s'éteint au bout de 10 ans, et la nue propriété des investisseurs particuliers qui, au bout de 10 ans, retrouvent la pleine propriété. Donc c'est ça le groupe. C'était groupe CIR initialement, puis c'est devenu CIR et Urban Premium, puis CIR Urban Premium et Agarim. Alors, Bacalan, parce que l'histoire a commencé là-bas, parce que tout était sous une structure qui s'appelait Financière Bacalan, et qu'on trouve ça plus sympathique, et on veut créer une vraie marque employeur avec le mot Groupe Bacalan.
Alors, première thématique, les amis, je vous propose qu'on interroge Stéphane Dallier sur en quoi la rénovation de l'ancien est un levier ou un pilier stratégique, justement, à la fois pour votre groupe, bien évidemment, parce qu'il y a aussi votre fonds de commerce. Alors, sur des catégories, effectivement, peut-être de clientèle haut de gamme, mais pas forcément, c'est pas forcément le cas dans tous les domaines. Il pourrait y avoir, effectivement, un levier pour favoriser un peu mieux la fluidité du logement. Quelques réactions, peut-être, parmi les journalistes. On va commencer par toi, Sébastien.
Une réaction sur la rénovation ?
Oui, par exemple, oui.
Le feuilleton qu'on a vécu, or sans parler de la mise en scène.
Sur ma prime rénov.
Sur ma prime rénov. Ouais. Que vous inspire ce feuilleton ?
Ma prime rénov partait d'une bonne idée. Mais comme toute bonne idée, à un moment donné, il y a des gens qui en profitent. C'est d'ailleurs l'argument du gouvernement. C'est de dire on a eu un tel engouement et on voit bien que il y a quelques entreprises de rénovation mal intentionnées qui en profitent, qui gonflent les prix et qui du coup captent une partie de leur marge liée à ce sujet-là. Donc on détourne quelque part le vrai objectif de ma prime rénov, qui n'est pas d'augmenter le prix de rénovation, qui est de pouvoir le faire. Moi, je pense que ma prime rénov, ça peut être une bonne idée, mais il faut pas la laisser aux particuliers. Il faut vraiment des professionnels. Quand on restaure un immeuble, quand on restaure des logements, c'est pas les mêmes artisans que quand vous avez un problème de plomberie chez vous. Ce sont des vrais artisans d'art. Alors en plus, moi, je suis sur des immeubles remarquables. On a toujours un ABF avec nous. Et pour le coup, ils sont toujours de très bons conseils parce qu'on conserve un maximum de vestiges du passé qui est quand même assez extraordinaire. En France, on a quand même des très beaux immeubles. Mais même sans aller dans ces immeubles remarquables, il faut des professionnels. Et tant que MaPrimeRénov est donnée en partie aux particuliers, en partie à certaines entreprises qui le font, ça ne marchera pas. Voilà. Donc il faut sûrement plus l'encadrer, il faut sûrement plus le labelliser.
Comment ?
C'est assez simple, hein. Et aujourd'hui il y a des labels des artisans qui doivent être certifiés.
Oui, on ne
peut pas confier ça à tout le monde,
RGE,
tout simplement.
Exactement. C'est pas suffisant.
Ça n'est pas suffisant. Et je pense que il devrait y avoir des acteurs comme nous, d'autres acteurs qui, vont réhabiliter peut-être des logements en picking, c'est-à-dire pas forcément l'immeuble entier, mais ces entreprises-là doivent être labellisées d'une manière ou d'une autre. On a créé plein de labels, hein. On a créé le NF Habitat, on avait à l'époque le ISO, on avait plein de certifications. Eh ben, à la profession, peut-être de s'organiser pour dire, on est des spécialistes de la réhabilitation, c'est un vecteur de transition écologique, puisque tout ça est lié quand même à tout ce qu'on a voulu imaginer dans la loi climat et résilience. Eh bien, allons jusqu'au bout et utilisons ces leviers-là, mais pour faire et non pour augmenter les marges.
Est-ce que vous pensez, mes amis, que la rénovation, alors énergétique, mais la rénovation plus globale, hein, parce que finalement, la rénovation énergétique, c'est un des piliers de la rénovation dans son ensemble. Souvent, on la prend comme une finalité, mais on devrait plutôt traiter de la rénovation sur la transformation du bâti, y compris la rénovation énergétique. Est-ce que vous pensez que c'est un levier pour justement essayer de redonner un peu plus de fluidité, par exemple, vitaliser les centres-villes ? Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous faites, Stéphane, c'est que vous redonnez vie à des bâtiments remarquables qui pourraient être fortement en déshérence. Peut-être un mot là-dessus, Isabelle ?
Oui, c'est évidemment un levier, surtout que, comme vous dites, dans les villes à taille humaine, il y a souvent un patrimoine magnifique, ce qu'on appelle les villes cathédrales. Il y en a, je crois, une centaine de villes cathédrales, où, justement, tout le passé est là. C'était des villes centrales autrefois, où il y a des foires, des cathédrales, etc. Donc, effectivement, on sous-exploite ce patrimoine. Le problème, c'est l'équilibre économique, évidemment. Et ça me fait penser un peu à la même problématique avec la transformation de bureaux en logement. Tant que les gens qui détiennent ces actifs ne baissent pas, il faut faire la pédagogie de la baisse des prix, ne baissent pas leurs prix pour que ce soit, que l'opération soit acceptable in fine, on n'y arrivera pas massivement. Donc il faut que les propriétaires, que ce soit des immeubles vacants, que ce soit des bureaux vacants, se fassent à l'idée qu'il faut qu'ils vendent beaucoup, beaucoup moins cher.
Oui, qu'il y ait une perte de valeur réelle. Que vous en pensez quoi, justement ? C'est le vrai sujet. Hein.
Oui, c'est
parce
un vrai sujet.
Effectivement, le problème, c'est qu'ils préfèrent... Enfin, c'est même assez schizophrénant, parce qu'ils préfèrent limite laisser vide sans aucune création de valeur, plutôt que d'essayer de le céder à un prix dont ils supposent finalement qu'il n'est pas adapté.
Alors, sur les bâtiments, sur les immeubles qu'on achète, on a cette problématique, mais un peu moins que sur des actifs tertiaires qu'on pourrait transformer.
Ah, vous l'avez moins ? Ah bon ? Vous
oui.
l'avez moins ?
Mais pourquoi ? Parce que les propriétaires sont conscients et que de toute façon, s'ils le vendent, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de continuer à le gérer. Les bâtiments qu'on achète, ils sont quand même... Enfin, il y a beaucoup de travaux à faire. Hein, et c'est oui. très, très coûteux, oui. les travaux, dans un bâtiment remarquable. Cet objectif nécessaire pour moi de trouver un équilibre économique dans la transformation d'actifs tertiaires en résidentiel, vous avez complètement raison, il n'existe pas aujourd'hui. J'en ai fait quelques-uns, je sais quelle était la marge finale, mais c'était important, et quand on est dans des grosses maisons, on peut se permettre de tester pour essayer de comprendre et après de l'industrialiser. En fait, le constat, il est assez simple. Contrairement au résidentiel, dans le tertiaire, la valeur, c'est pas la valeur intrinsèque du bâtiment. Et je m'explique. Quand on construit quelque chose, bah, la valeur, elle est liée à quoi ? Au foncier qu'on a acheté, au coût de construction. Il y a évidemment des honoraires, des assurances, et tout ça, il y a les architectes à payer. Et la rémunération du risque qui s'appelle la marge. Ça vous donne un prix de sortie. Mais en immobilier d'entreprise, c'est pas ça. C'est la valeur d'usage. C'est combien on me loue et je mets une rentabilité.
Et pareil dans le résidentiel.
Dans le résidentiel géré. Mais dans le résidentiel pur, quand on construit un bâtiment, en fait, le prix final, c'est la résultante des trois composantes que je donnais. Ce qui n'est pas le cas dans le tertiaire. Donc tant qu'on n'aura pas aligné une valeur d'usage avec une valeur d'objet, ça peut pas marcher. Donc soit on trouve une valeur d'usage, et les seules opérations réelles de transformation d'immeubles tertiaires en résidentiel, c'est en résidence gérée, puisque la résidence gérée, justement, c'est aussi une valeur d'usage. Mais imaginez pouvoir faire du logement familial à un prix cohérent dans du tertiaire pur, sans avoir à dégrader malheureusement le prix de l'actif, c'est un leurre total. Et puis, entre nous, et vous le disiez, il faudrait simplifier un peu toutes ces normes, parce que on n'a pas trop vu les pages arrachées dans le code, malheureusement. On a toutes ces normes qui se sont empilées au fur et à mesure, qui sont parfois contradictoires. Donc il y a un gros travail à faire. Mais pour moi, c'est une vraie réponse. Alors, la transformation ne résoudra pas la crise du logement. En 2021, souvenez-vous, au niveau réservation, en dehors de la production directe, donc en maîtrise d'ouvrage directe des bailleurs sociaux, on était à 162 000 logements. Je crois que l'année dernière, on était à 85 000, dont une bonne partie en vente en bloc. Bon, ça, c'est sur la partie offre nouvelle.
Logement social.
Non, hors logement social direct. Parce que dedans, il y a une bonne partie qui est vendue à des bailleurs sociaux quand même. Mais hors maîtrise d'ouvrage direct des bailleurs sociaux. Donc voilà, on sait pertinemment qu'on est en manque d'offres et on n'arrivera pas à compenser en rachetant des bureaux qui sont vides et à tout transformer. Alors oui, on entend, et c'est aussi des effets d'annonce, il y a combien ? 1 million de mètres carrés
5 millions.
5 millions de mètres carrés en Île-de-France qu'on pourrait transformer. Bon, non, mais en Île-de-France, il y en a beaucoup. Bon, si déjà on peut transformer 25%, ça serait bien. Mais il y a beaucoup de verrous à lever.
Guillaume.
Je voudrais réagir et... compléter et revenir un petit peu sur l'actualité aussi. On travaille en ce moment sur un statut du bailleur privé dont on ne sait pas encore exactement ce qu'il en ressortira.
Mais on
compte dessus. Alors oui, on compte dessus. Le marché, il est à tonnes. On manque d'offres. Quels sont aujourd'hui les dispositifs qui fonctionnent ? Admettons, passons, faisons table rase du statut du bailleur privé et notamment qui attire les investisseurs, tant est qu'il y en a encore. Quels sont ceux sur lesquels on peut mettre le doigt et ceux qui ne fonctionnent plus du tout? On peut parler du Normandie, je ne sais pas.
Alors nous, heureusement pour nous, tous les dispositifs fiscaux fonctionnent plutôt bien. Le monument historique, le déficit foncier, le Malraux, qui est notre cœur historique de distribution, continue à bien fonctionner.
Mais c'est des niches.
Mais c'est une niche fiscale. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça continue à exister. Parce que si ça prend une proportion délirante, et comme le Pinel l'a été, bah, on sait bien qu'à un moment donné, on va mettre l'accent dessus. Le De Normandie, on a lancé une gamme De Normandie. Alors, on a lancé une gamme, nous, De Normandie patrimoniale. Pourquoi patrimonial ? Parce qu'on est toujours attaché à la pierre. Et on considère que la pierre, on doit la conserver sûrement le temps réglementaire pour pouvoir bénéficier de ces lois, mais il faut l'intégrer dans son patrimoine. Il y a même une valeur de transmission dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a toujours des bâtiments assez remarquables. Le français est très attaché à la pierre. Le français, il est attaché à deux choses.
D'ailleurs,
il est attaché au beau bâtiment.
C'est très français.
Il n'y a pas que le français, il y a le belge. Ouais,
en tous les cas. En tous les cas.
Non, mais c'est vrai, c'est assez partagé.
En France, on est attaché à la pierre, on est attaché à la maison individuelle. On n'a pas trop favorisé ni la belle pierre, ni la maison individuelle.
J'ai pas les chiffres du De Normandie, mais c'est combien d'opérations par an?
Non, mais aujourd'hui, le De Normandie, c'est tout petit. On parle de 2000 logements. Mais ça peut aller jusqu'à 10 000 logements. C'est pas un sujet. Le sujet, c'est l'équilibre économique. J'étais à une table ronde sur le De Normandie il n'y a pas très très longtemps. Ce qui peut faire du volume, c'est des petits prix. C'est du 185 000 euros. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est plutôt un prix à 250 000 euros. Mais encore une fois, parce que on est dans le haut de gamme du De Normandie.
Vous êtes dans une stratégie vos clients, votre bassin. C'est pas la primo-accession de base. Non. Ça reste soit des primo-accédants qui ont des moyens, mais et des investisseurs également. On n'est pas tout à fait dans le même.
Oui, mais si on prend d'autres acteurs.
Parce que vous l'avez dit,
tout à fait. Mais si on prend d'autres acteurs qui veulent faire du De Normandie un peu en masse, avec une qualité inférieure à ce qu'on fait, je pense que ça peut remplacer une partie du Pinel.
D'accord.
Mais encore faut-il trouver les bâtiments.
C'était l'idée.
Trouver les bâtiments. C'est ça le problème. On a quand même du mal à trouver les bâtiments adéquats pour sortir des biens à moins de 200 000 euros. Ça ne remplacera jamais. Mais c'est quand même une bonne idée pour créer de l'offre.
Et pourquoi faut recibler géographiquement ? C'est le ciblage ?
C'est le coût du bâtiment plus les coûts de travaux.
En réalité, coût du bâtiment, coût des travaux, identique à Roubaix, identique à Paris.
Ouais.
Sauf que...
Alors, pas le coût du bâtiment, mais les coûts de travaux, oui.
Non mais, pardon, vous avez raison. Pardon, je modère. Le coût des travaux. Donc, en fait, en réalité, il y a un vrai sujet qui restera toujours le prix, parce qu'en fait, ça restera toujours le sujet du prix. Vous ne pouvez pas sortir le produit avec un écart. Je prends par exemple, vous qui êtes un expert en logement neuf, il n'y a pas photo. L'écart, il est de 25 à 30%.
Mais il n'y a pas photo parce que, même si je n'aime pas ce mot-là, mais il n'empêche que dans le neuf, on a quand même réussi à industrialiser un peu le process de construction.
Ouais.
Quand on fait un bâtiment, certes, une opération reste unique, mais les logements, on sait les industrialiser.
Oui, c'est
quand on fait de la rénovation, voilà, exactement. Quand on fait de la rénovation,
non mais c'est vrai.
Non mais je suis complètement d'accord avec vous.
Et puis comment ça se fait qu'on a autant de malfaçons?
Alors, je répondrai juste après.
Oui, ça, c'est quand on fait un sujet que vous connaissez bien. Non, mais,
exactement. Ouais. Quand on fait de la rénovation, c'est un logement est unique. Et c'est toute la différence. Et donc, c'est chaque logement est un objet à part entière. Et on fait avec l'ancien. Donc c'est des coûts travaux supérieurs. Et puis, c'est des plus petites opérations. Quand on achète un immeuble en cœur de ville, ce qui est notre cible, ben, c'est des opérations entre 8 et 20, 25 logements. Quand on fait du neuf, c'est jamais en centre-ville, parce qu'il n'y en a pas. C'est assez rare. Et du coup, c'est des opérations de 50, 100, 200 logements. Donc, c'est évidemment pas le même prix. C'est sûr.
Alors, justement, Bruno Meunier-Bédard voulait poser une question.
Oui, bah, dans votre modèle de transformation d'un actif tertiaire en résidentiel, il y a des travaux de performance énergétique, j'imagine.
Oui, alors,
est-ce qu'ils sont pris en compte de manière individuelle? Est-ce que c'est vous qui les faites? Est-ce que c'est corollaire aux subventions que les personnes vont recevoir? Comment ça se passe? Et est-ce que ça m'amène à ma deuxième question? Bon, là, on a vu la stigmatisation des entreprises de rénovation. Hein, tout le monde n'est pas comme disait aujourd'hui le patron de Hexahome, le premier constructeur de maisons individuelles, qui a un tiers de son chiffre d'affaires en rénovation désormais. Il disait tout le monde n'est pas des voyous, mais il y a eu du gâchis. Il y a eu du gâchis. Il y a eu des travaux qui ont été qui ont été très très subventionnés et qui finalement n'auraient peut-être pas dû l'être. Et deuxièmement, des entreprises qui ont surfacturé. Hein, donc c'était un peu la porte ouverte, etc. Entre parenthèses, on a reçu ici, avec toi Sylvain et puis Isabelle, la personne qui s'occupait de ma prime Rénov. Hein. Il faut pas l'oublier,
la directrice générale de l'ANA.
On avait posé la question.
Valérie Mancretello.
On avait posé la question sur la rénovation d'ampleur et la rénovation individuelle.
Oui.
Ça part d'une idéologie au début. Hein. On dit pour faire du bien à la planète, pour faire du bien à la planète, il faut faire une rénovation d'ampleur. Et aujourd'hui, on nous dit, non, c'est plus possible. Alors, je sais pas, il y a quand même un truc.
C'est ce que vous avez pointé, Stéphane. C'est le rétro-pédalage.
Voilà.
Difficile à comprendre.
Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que finalement, le fléchage de ces travaux de performance énergétique, il ne serait pas plus intelligent de le flécher vers la copropriété et non pas vers des particuliers qui n'y connaissent rien et, techniquement et qui sont la proie de...
Alors, concernant la première partie de votre question, aujourd'hui, je ne fais pas de transformation d'actifs tertiaires en résidentiel. J'en ai fait dans mon autre vie, mais je n'en fais pas. Mais quand on en faisait, clairement, on gardait uniquement le gros œuvre. Un actif tertiaire, là, pour le coup, c'est pour ça qu'on faisait principalement de la résidence gérée, techniquement, ça s'appelle du poteau-poutre. Donc c'est assez simple, mais par contre on enlevait tout, la totalité. Poteau-poutre, c'est simple. Un bâtiment quand on le construit en résidentiel, il y a les parois, il y a les planchers, tout est un peu porteur. Dans un actif tertiaire, c'est des poteaux qui soutiennent des poutres et donc c'est très tramé. Et à l'intérieur on fait ce qu'on veut. À l'intérieur on fait ce qu'on veut. Exactement. Donc c'est simple à transformer en résidence gérée parce que pour le coup c'est très tramé, mais le curage il était total, jamais ou quasiment jamais on gardait les façades. Une façade de bureau c'est quand même pas très sympa pour une façade de résidentiel.
C'est
et puis dans
moche,
le résidentiel on a envie de rajouter un petit balcon ou alors de creuser pour mettre du patio.
Mais ça coûte beaucoup plus cher.
La largeur de construction des immeubles qui sont plus de l'ordre de 18-20 mètres, là où en résidentiel on est entre 13 mètres et maximum 14,50 mètres, 15 mètres. Donc souvent il fallait aussi creuser au milieu pour créer de la lumière et faire vivre tout ça. Donc c'est pas simple, hein. Franchement c'est pas simple. Après, mais je vous rejoins et c'est un peu ce que je dis sur ma prime rénov, il faut pas la donner aux particuliers. Il faut la donner, alors peut-être à la copro. D'ailleurs, il y avait à un moment donné, il était envisagé, mais je crois même qu'il y avait, il y a eu ma prime rénov copro pour les parties communes.
Non mais elle existe toujours.
Voilà, elle existe toujours.
Elle a été instituée il y a trois.
Mais c'est pour les parties communes. Voilà. C'est pas pour les parties privatives de l'immeuble
qui est toujours valable.
Exactement.
Puisque le gouvernement, en l'occurrence Valérie Létard, a affirmé à l'Assemblée, vous l'avez entendu, qu'elle maintenait.
La suspension ne joue pas pour les rénovations de copropriété.
Exactement.
Pardon.
la suspension ne s'applique pas.
Absolument, ça perdure et ça élargit. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Le seul problème, c'est qu'effectivement, MaPrimeRénov' ne résout pas le problème du financement de l'ensemble des travaux des parties communes et se pose la question du fameux reste à charge pour des copropriétés. Parce que je vais vous dire que quand vous avez 2 ou 3 millions pour des grosses copropriétés de travaux, vous avez des restes à charge quand on prend les unités qui peuvent monter jusqu'à 25 ou 30 000 euros par propriétaire. Il y a des propriétaires occupants qui n'ont pas les moyens de le faire.
Alors, vient de paraître un décret pour mettre en place les prêts collectifs. Oui. C'est-à-dire que c'est la copropriété qui emprunte. Et j'espère que ça va se mettre en place. Ça pose pas mal de questions sur les garanties, etc. Mais ça peut être quand même un moyen, entre la copropriété qui épargne, la copropriété qui emprunte, de lisser vraiment sur longtemps.
Bien sûr. Stéphane, quand vous achetez un immeuble, vous l'achetez en bloc ?
Alors, on l'achète en totalité.
En bloc.
De toute façon, dans les dispositifs qu'on utilise, notamment le Malraux, il faut refaire l'intégralité
de l'immeuble. Ensuite,
sinon, ça fonctionne
pas. Vous le vendez, vous le mettez en place un règlement de copropriété.
Ah oui ? Et on vend.
Est-ce que vous administrez derrière
logement par logement ?
Est-ce que vous administrez derrière ?
Non. Alors, oui et non.
Par exemple,
ça dépend.
Si un investisseur vient, un gestionnaire de patrimoine qui est aussi, qui vous apporte éventuellement un client ou par vos propres forces de vente, est-ce que, par exemple, moi, si je veux acheter un bien classé en Malraux que je veux louer avec une bonne rentabilité, bien forcément, est-ce que vous pouvez vous occuper de la gestion, par exemple, est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous intégrez cette chaîne de valeur ?
Non, on ne l'intègre pas et on passe par des gros gestionnaires.
D'accord.
Connus. Au niveau national. La difficulté de le gérer nous-mêmes, mais peut-être que demain on le fera, mais c'est qu'il faut quand même avoir un maillage. Nous, on est partout en France, donc il faut quand même avoir un maillage assez important.
Donc vos partenaires ont un réseau capillaire.
Exactement.
Qui permet de traiter toutes les demandes.
Exactement.
Etc.
Après, quand je dis oui et non, c'est non quand on fait de la vente directe.
Bien sûr.
Par contre, quand on est dans une SCPI, évidemment qu'on le gère.
Bien sûr.
Évidemment qu'on gère.
Bien sûr. Il y a un point important, bien évidemment, c'est celui de la catégorie de l'investisseur. C'est votre fonds de commerce, l'investisseur. Oui. C'est votre fonds de commerce. On voit, les investisseurs ont été, c'est pour le dire, très sévèrement ébranlés. Vous avez rappelé une chose qui est très vraie. En période de crise et de manque de confiance, l'épargne des Français, elle part à la hausse comme c'est pas permis. Alors, le livret A de la Poste, etc., il bat absolument...
Elle n'est pas improductive, cette épargne.
Non, mais attendez, je vais terminer ce que je dis, avant de me souligner.
Elle sert à des choses.
Non, mais justement, voilà, laissez-moi terminer.
On aimerait bien quand même la libérer un peu pour qu'ils aient des logements.
Le volume des contrats de l'épargne sur des livrets A ou des livrets, etc., et sur l'assurance-vie, de l'ordre d'à peu près 4600 milliards d'euros, quand même,
C'est beaucoup d'argent.
Voilà, beaucoup d'argent. On voit croître, et d'ailleurs on l'a vu pendant la période de Covid, vous l'avez vu comme moi, croître des taux d'épargne importants qu'on pourrait corréler d'un point de vue sociologique au manque de confiance des Français et parfois à une morosité, une peur qu'ont les foyers. Et les foyers, on peut les comprendre. Et on peut comprendre également que ces foyers-là, c'est ceux qui partent pas, qui sont en location et qui mettent de l'argent de côté et qui se disent « je préfère garder mon contrat de location plutôt que d'essayer l'aventure d'acheter ». L'investisseur, pourquoi, de votre point de vue, il est si ébranlé dans ce pays ? Et pourquoi est-il systématiquement, parce que quand je vois, c'est absolument incroyable, la variable d'ajustement de toutes les politiques budgétaires ? Est-ce que c'est parce que c'est pas de l'écolisable qu'on tape dessus ? C'est quoi ? C'est quoi votre point de vue là-dessus ?
Alors, je vais sortir un peu du cadre du groupe Bacalan, parce que c'est vrai que nous, nos investisseurs, ça reste des investisseurs qui gagnent quand même beaucoup d'argent.
En tous les cas, est-ce qu'ils cherchent un levier fiscal ?
Mais pas que. En fait...
Mais de la rentabilité.
Non, mais c'est plus que ça. Ce sont des gens qui, certes, bénéficient des leviers fiscaux pour pouvoir acheter. Et heureusement qu'ils y sont, parce qu'on le disait tout à l'heure, entre le prix d'un immeuble et le prix de construction, on est plus cher que du logement classique. Donc, ils bénéficient de ce levier fiscal, mais ils le font aussi parce que, un, ils aiment l'immobilier, et deux, souvent, ils veulent le transmettre. Voilà. Donc, c'est une catégorie un peu différente. Maintenant, d'une manière générale, l'investisseur...
Vous voulez dire qu'il ne cherche pas forcément une rentabilité ?
Non, pas forcément. Ils cherchent à conserver un bien.
Quoi, je mets de l'argent
assez exceptionnel.
En fait, je mets de l'argent au coffre et je suis sûr.
Alors, ils ont une rentabilité parce que le levier fiscal permet immédiatement d'avoir une rentabilité. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Oui. Mais ils aiment la pierre chez nous. Enfin, c'est assez incroyable. Hein. Moi, j'en rencontre les bâtiments qu'on fait.
En fait, vous voulez dire
quand
vous
dites
tout...
quand vous dites ils aiment, c'est quel profil?
Oui, absolument, quatre dirigeants et
oui, c'est de souvent. Alors c'est des quatre dirigeants, c'est des quatre supérieurs, ça c'est sûr.
D'accord.
Et puis ceux qui achètent du monument historique, ce sont aussi des chefs d'entreprise qui ont peut-être vendu leur société, qui ont les moyens et qui ont envie de se créer un beau patrimoine. En fait, c'est ça, ils ont envie de se créer un beau patrimoine. Nous, on fait du patrimonial.
D'accord, hein. D'accord.
Après, dans le Denormandie, c'est pas exactement la même chose. Le Denormandie, ce sont des gens qui ont aussi, parce qu'ils ont envie d'acheter un appartement et de le mettre en investissement, parce qu'ils se disent, peut-être que dans 10 ans, je le récupérerai, je le donnerai à mes enfants, je mettrai ma nièce. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est des investisseurs. La base est un peu plus large. Ils gagnent un peu moins. Mais l'investisseur, d'une manière générale, en France, il a un peu peur parce que celui qui était en capacité d'acheter un Pinel parce que il avait sa prime de fin d'année, il ne sait pas si l'année prochaine il va l'avoir, donc il ne sait pas s'il va pouvoir. Et puis, il ne faut pas oublier, en France, alors sûrement, c'est très bien d'un point de vue sociologique parce que le locataire est très protégé, mais d'un point de vue propriétaire, quand quelqu'un paye pas, souvent ces petits investisseurs, eux, il faut qu'ils continuent à rembourser la banque.
Ouais, c'est clair.
Donc c'est aussi un frein.
En fait, c'est une clientèle qui est moins ébranlée par les aléas économiques, qui ont du cash et qui effectivement utilisent, par exemple, le levier fiscal. Mais ça peut être aussi des gens qui vendent leurs entreprises, qui réinvestissent dans le cadre, par exemple, de l'article 150 au BTR.
Le fameux 150 au BTR.
Au BTR, qui est l'article général des impôts du Code général des impôts, qui permet de réinvestir des sommes suite à la cession d'une entreprise. Souvent, c'est de l'immobilier de luxe, du Airbnb de luxe, bien évidemment. Alors, justement... Oui, on va devoir bientôt se quitter, mais je voulais juste qu'on ait bien comprendre la mesure de vos chiffres, si vous voulez bien. Bacalan, en chiffres, c'est combien de réalisations par an, toutes filiales confondues?
C'est...
Les principaux métiers.
Sur CIR, à hier, on a 80 chantiers en cours en France complète.
Ah oui, quand même.
Et sur Agarim, on en a une quinzaine. Et sur Urban Premium, on gère à peu près 1400 logements.
Quel est le chiffre d'affaires du groupe?
On est aux alentours de 300 millions.
Combien de collaborateurs aujourd'hui?
138 hier.
D'accord.
Pour être précis.
Et vous êtes, votre terrain de jeu, c'est France métropolitaine exclusivement?
Non, justement, c'est plutôt... c'est France métropolitaine et c'est les villes
bien sûr.
Plutôt à taille humaine.
Ça vous a pas tenté de créer une propre SCPI
On en a. Oui. Sur Urban Premium, on a des SCPI. Des SCPI.
Ce sont vos propres... SCPI résidentiels.
On a des SCPI fiscales.
Donc vous êtes accrédité AMF, bien évidemment.
Oui, on a l'agrément AMF.
De Normandie.
Exactement. Là, on attend un agrément, j'espère. Si l'AMF m'écoute, on attend.
Et on peut épargner à partir de quel ticket sur vos CPI?
10 000 euros.
Une question qu'on nous donne. Ah, quand même. Ouais. Voilà.
Pour ça que quand vous disiez tout à l'heure...
CPI de haut vol.
Non, parce que quand vous disiez tout à l'heure, on s'adresse à beaucoup de gens... un ticket à 10 000 euros versus un logement à 250-300 000 euros, ça veut dire qu'on peut aussi bénéficier de ça.
Alors, je sais, on vous la pose tous les jours, je sais. Et on peut espérer quel type de rentabilité en moyenne? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres?
C'est très compliqué de dire ça parce que ça dépend énormément du client, de ce qu'il paye en impôts, de son taux d'imposition.
On peut aller une fourchette en taux à peu près, grosso modo,
ça peut aller... sans parler du levier fiscal, ça peut aller exactement comme on avait dans le neuf, entre 1,4% à 3-3,5%.
Oui, bien sûr.
Voilà. Hors fiscalité.
Donc c'est-à-dire que la fiscalité peut doper la rentabilité.
Évidemment.
Donc si on dit qu'on est sur une moyenne entre 2,5% et 3,5%, on est plutôt cohérent.
On est plutôt cohérent, exactement.
Hors fiscalité et hors plus-value.
et hors plus-value, parce qu'effectivement, c'est un temps long. Et on espère bien, en 15 ans, que l'immobilier coûte un tout petit peu plus cher que ce qu'on a payé initialement.
Oui, oui, bien sûr.
Pas sûr.
Mais c'est pas sûr. Non, mais vous avez raison. C'est pas sûr. C'est pour ça que
mais
nous...
Mais Stéphane, on a connu, vous et moi,
on a connu quelques crises.
Les époques où, quand on achetait il y a 25 ou 30 ans, oui. On a fait à peu près combien? 2 ou 3 fois la culbute, Isabelle, facilement.
Oui, enfin, on a aussi connu des moments où, si en 92, il fallait vendre, on n'était pas bien.
Oui, c'est clair. Oui. Rapidement,
j'ai eu la chance mercredi de rencontrer Dominique Estrosi Sassone, qui est l'invité demain, président de la commission
qui est très active sur les sujets logement.
Et sur le logement neuf, elle avait fait un rapport d'information l'an dernier. Mmh. Elle me dit, on en a, franchement, entre nous, encore pour 2 à 3 ans d'une bonne crise. Qu'en pensez-vous?
Oui, sur le neuf, oui.
Tout le monde dit sur le 9, 2028.
Mmh. Bah, déjà, si on reprend les points de blocage, et notamment du logement neuf, déjà, il faut avoir un permis de construire. À la veille des élections municipales, ça fait déjà 1 an, 2 ans que les maires freinent, parce qu'il y a toujours cette petite rengaine de maire bâtisseur, maire sortant.
Maire vercu, oui.
Maire battu.
Maire battu, exactement. Nous.
Mais c'est vrai.
Alors, pas toujours.
C'est pas vrai. Parce qu'il y a eu des contre-exemples,
c'est pas
heureusement.
Vrai, pas toujours. François Rebsamen à Dijon, Gilles Abérousse à Châteauroux, je peux en citer pas mal aussi.
Mais nous, dans la rénovation, on a besoin d'un permis de construire, notamment en Malraux, on n'a jamais de problème pour l'avoir.
Jamais.
Le maire nous le donne systématiquement, parce qu'il est content, on embellit la ville. Et on n'a jamais de recours.
Ah oui, c'est intéressant.
Ah mais c'est assez extraordinaire et assez vertueux. Quand vous refaites une façade d'un immeuble...
Mais c'est logique.
Mais quand vous refaites
limite,
une façade
d'un immeuble... Les voisins vous disent bravo, super.
Ils sont super contents. Ils ont l'impression qu'on améliore l'espace public.
C'est pas une impression, c'est une réalité.
Et on améliore l'espace public.
Absolument.
Mais dans le neuf, non. Donc dans le neuf, il y a quand même beaucoup de travaux. Il y a des grues, il y a de la poussière, il y a tout ça. Donc malheureusement...
Vous bouchez la vue.
Vous savez, vous faites une action finalement de restauration patrimoniale, vive la France, et on devrait prescrire la rénovation que vous faites à la Sécurité sociale. Ça serait une très bonne chose. Hein, ce serait pas mal. On aurait chacun sa carte vitale. On appelle Allô Bacalan. Vous êtes-vous ouvert un compte Bacalan? Oui, rapidement.
Une petite précision. Quels sont les résidents dans
résidence principale. Systématiquement. Et ce sont les mêmes loyers que les loyers marchés. Voilà. On est soumis aux mêmes règles.
Le Malraux ne s'applique qu'aux résidences principales.
Bien exactement. Celui qui investit en Malraux, celui qui investit en monument historique, a obligation de le louer en résidence principale.
Et en déficit foncier aussi.
Pareil. Exactement. Mais ce n'est pas la même durée.
Voilà.
C'est entre 6 ans pour certains, 9 ans pour d'autres. Et c'est comme le de Normandie. Hein. Le de Normandie, ça va jusqu'à 21% d'économie d'impôts. Mais pour ça, il faut louer 12 ans.
Merci.
C'est vite passé, en fait, 12 ans.
Ça va très vite.
Donc pour vous, la fin du Pinel, pour vous, c'est une sorte d'accélérateur,
voilà,
non?
30 secondes.
Alors, il y avait le Pinel rénové.
Rapidement.
Aussi.
Voilà.
Mais...
Voilà, on resterait bien 1 heure de plus, mais le temps nous est compté. Alors, je suis très content parce que j'ai tout compris. J'ai tout compris. C'est extrêmement pratico-pratique.
J'essaye toujours très pédagogique.
C'est toujours très... Voilà, c'est la marque de Stéphane Dallier. On avait les cartes SD, on a la compréhension SD maintenant. Voilà, Stéphane Dallier. Merci beaucoup, président du groupe Bacalan. On peut vous retrouver facilement sur le site internet. On fait www.groupebacalan. Il y a un tiret entre groupe et Bacalan?
Vous pouvez tout faire, on arrive toujours au site, groupe-bacalan.com.
Voilà, un immense merci à notre Isabelle Relefet, présidente de la GIBAT.
Merci. Merci,
et c'est toujours extrêmement intéressant de vous avoir. Et j'espère bien qu'on va vous retrouver à la rentrée, ma chère Isabelle. Et on va vous souhaiter un très bel été, avec grand, grand plaisir. Un immense merci à notre Guillaume Chazoulière National, journaliste aguerri, acerbe, la plume qui fait frémir l'industrie, celle de Guillaume Chazoulière. Il a que des scoops, voilà.
Oui,
il a que des scoops. Extrêmement. Je me demande comment il fait, voilà. Mais en même temps, il est journaliste.
Faut pas que je lui parle juste après, alors.
Et il ne dévoile jamais ses sources.
Je suis pour ça.
Et il a toujours, voilà, en tout cas, voilà, merci pour ce que vous faites, et c'est toujours un plaisir.
Tout ça manque de people, quand même.
C'est toujours un plaisir de vous revoir, voilà, depuis des années que l'on bosse ensemble. Merci à vous. Un immense merci à notre Régis Sébi de bien ici, Monsieur Data. Merci à Sébastien Chabas, journaliste plurifonction, le cartel multiservice de l'immobilier. Voilà, vous savez tout faire, vous écrivez, vous faites de la télé, vous faites de la radio.
Non, télé, non.
Pourquoi pas?
Non, c'est pas prévu.
Non, ça vous tente pas. Non, ça vous tente pas. Et bien sûr, évidemment, à Sa Majesté Bruno Monnier-Binard. Voilà. Non, mais c'est un joke. Voilà.
Et qui a une petite surprise pour toi.
Ouais. Oh.
Pour fêter tes 60 ans.
Ah oui, 60 ans.
Voilà. Un t-shirt. Alors, je sais pas, tu peux lire ce qui est marqué.
Alors. Mon cher Baptiste, si tu peux faire un gros plan, voilà le
vieilli à la perfection, exemplaire unique, ça c'est vrai. Hein. Vous confirmez, exemplaire unique. Hein.
Merci mon Bruno, c'est toujours charmant, il a toujours des idées extraordinaires. Bien évidemment, 60 ans, c'est le début de la vie. Voilà, un immense merci à toi Bruno, journaliste au Point. Merci à notre ami Baptiste Plouchard qui est derrière la technique, notre super technicien. Merci à Karine aussi qui nous a préparé un petit encas juste avant d'aller passer la soirée avec vous, mon cher Stéphane. Karine qui est bientôt la future Madame Lévy-Valency. Voilà. C'est officiel, ce sera l'année prochaine. Voilà, il était temps de régulariser la situation. Je vais en faire une femme honnête. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On est très heureux aussi, bien évidemment, avec nos amis de Bien Ici. Je voudrais citer Zineb Arlin, Grégory Delpupo, Régis Sebi, David Menmassa, le président, le tout nouveau directeur marketing et communication Valérie de la Bourralière et toutes les équipes de Bien Ici, car sans eux, ce programme n'existerait pas. Donc, bien évidemment, on va essayer d'être aussi encore meilleur à la rentrée dès septembre pour vous retrouver. Je crois, alors je peux pas vous le dire tout à fait, mais peut-être qu'on fera un numéro spécial en juillet de compilation. Je trouve ça extrêmement bien de le faire un peu avant l'été.
Un best-of,
ça peut être pas mal. Vous avez prévu des vacances cet été ?
Ben oui.
Voilà, vous allez vous reposer, parce que vous avez eu un début d'année sur des chapeaux de roue.
Au mois d'août, un peu.
Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous, toutes et tous, à l'approche de l'été. Mettez un peu de clim, d'accord ? Aérez-vous et aérez des deux côtés pour faire un peu de courant d'air, parce que souvent on n'aère que d'un côté, et c'est pas très bon, parce que je peux vous dire que la transition énergétique avec le réchauffement climatique, c'est pas anodin du tout, on le ressent tous, puisqu'on est littéralement en train de fondre. Voilà, bel été à tous, et on se retrouve bientôt pour un nouveau Grand Jury de la Presse Immobilière.
Le Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.